avec vous d'abord sur ce qu'on vient d'évoquer juste là, hein, l'Ukraine qui semble prendre l'avantage sur le terrain. Alors on parle pas de grandes portions de territoire, hein, c'est quelques dizaines de kilomètres carrés qui ont été repris selon ces images satellites au mois de mai, au mois d'avril. Est-ce que c'est une péripétie de guerre, bien habillée par de la bonne communication ukrainienne, ou bien à votre avis, il se passe vraiment quelque chose depuis quelques semaines, quelques mois sur le front, l'Ukraine parvient à reprendre plus facilement l'avantage?
Non, je pense que vous voyez justement la situation. Pour ceux qui auraient envie de penser que l'Ukraine commence à s'en sortir, je crois qu'en bon français, c'est du wishful thinking. Je reviens de la ligne de front, là maintenant. J'ai interrogé un commandant d'une brigade de dronistes, une brigade particulièrement efficace. Tout ce qu'il aimerait, évidemment, bah, c'est de pouvoir me dire ça va mieux. Mais non, ils ont des problèmes logistiques monstres. Qui plus est, c'est le printemps. Les soldats russes parviennent à se camoufler, à pénétrer les positions ukrainienne. Donc oui, si on regarde les choses au jour le jour, depuis deux mois, l'Ukraine est parvenue à récupérer un tout petit peu de son territoire, mais vous l'avez dit, hein, ça fait deux ans que c'est l'inverse qui se passe. Donc il faut vraiment absolument relativiser ça, d'autant plus que la Russie n'a pas encore démarré son offensive de printemps. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de regarder la ligne de front d'un point de vue géographique. Il faut arrêter de la regarder bouger d'un millimètre ou non. C'est trompeur. Parce que tant la Russie que l'Ukraine maintenant n'ont plus l'objectif d'essayer de gratter du territoire. L'objectif, parce qu'elles n'ont pas le choix, ni l'une ni l'autre, c'est de tuer le plus grand nombre de soldats ennemis pour essayer d'affaiblir l'armée ennemie. Donc ça, faut l'accepter. Vous l'avez dit, hein, vous comme moi, on ne sait pas combien meurent de soldats. Les chiffres sont tus, mais je vous donne une image. Quand je reviens du front, je traverse des villages. Vous traversez des villages qui comptent parfois 400 habitants. Vous voyez ces mémorials et pour 400 habitants, bah vous voyez des photos de 30-40 soldats qui sont tombés. Ça, c'est sans compter les blessés graves, c'est sans compter les disparus. Donc, l'Ukraine en train de s'en sortir, vous demandez à n'importe quel soldat citoyen, ici, il vous répondra, bah c'est tout sauf le cas. J'ai aussi une responsable des Nations Unies ici à Kiev. Parfois, lorsqu'on voit ce qui est dit sur des plateaux, par exemple télévisés, d'information continue, et ce qu'on observe ici, la réalité du terrain, on se dit qu'on vit vraiment dans deux mondes différents. Elle le dit très clairement. Pourtant, l'ONU a plutôt un langage prudent. Hein. Elle le dit, on assiste à une escalade des deux côtés. Les attaques sont de plus en plus puissantes. Alors oui, les Ukrainiens parviennent à frapper la Russie comme ils n'étaient pas parvenus à frapper les infrastructures russes jusqu'ici. Mais de l'autre côté, et je prends l'exemple de la nuit qu'on vient de passer sur la capitale à Kiev il y a deux jours de cela, les attaques, c'est plus quelques centaines de drones, 200 ou 300 comme il y a un an. Non, c'est 700 drones, parfois 900 drones, 70 missiles aujourd'hui suite à ces attaques. Dans mon entourage uniquement, et je me permets de parler de moi parce que, imaginez, je ne suis pas ukrainienne, je n'ai pas le réseau que les Ukrainiens ont. Et ben moi, j'ai un ami qui me dit, je me suis réveillée au petit matin, à 350 mètres de moi, un missile Iskander a frappé. Les maisons d'une rue entière ont été totalement pulvérisées. Les attaques sont extrêmement puissantes. Je pense que l'escalade, moi, je l'observe tout autant. Corriger là-dessus parce que c'est important, cette guerre elle dure pas depuis 4 ans, ça c'est la guerre à grande échelle. On fait souvent pas suffisamment la distinction, mais cette guerre elle a démarré en 2014. C'est aussi une manière d'avoir en tête la détermination russe et je pense que c'est important. Pour ce qui est du moral des troupes, vous demandez à n'importe quel soldat, il est épuisé, il a perdu un nombre de compagnons absolument délirant. Ce soldat-là vous parlera encore et toujours des problèmes logistiques. Ce soldat-là est très conscient qu'au meilleur des cas, il finira amputé. Au pire des cas, il finira, comme ses compagnons, très souvent malheureusement tué. Donc le moral n'est pas bon. Un soldat ici qui a 40 ans, il vous dit « j'ai un gosse de 10 ans, mon but, c'est que notre génération se sacrifie dans l'espoir que nos enfants, nos mômes qui ont aujourd'hui 10 ans, n'aient pas à prendre les armes. Ils sont découragés parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un début de balbutiement de négociation à l'horizon. Zelensky l'a rappelé à Evian lors du G7. Non seulement il veut négocier, mais il ne souhaite qu'une chose, c'est que la guerre cesse avant l'hiver. Ce qu'il le dit très clairement, un deuxième hiver comme on l'a vécu, parce que l'hiver qu'on vient de vivre en Ukraine a été extrêmement pénible. Il le dit, non, c'est pas envisageable, il faut que cette guerre cesse. La réponse de la Russie, ça a été une attaque supplémentaire massive sur les villes ukrainiennes.
Et juste pas intérêt, personnellement, son clan non plus, il n'y a pas intérêt. Tous se souviennent que ceux qui ont perdu militairement, les leaders russes qui ont perdu militairement ou ont reculé, que ce soit Gorbatchev, Khrushchev ou même le tsar, ont tous très mal fini. Et donc, il ne peut pas arrêter. Il est sur un vélo dont il ne peut descendre. Et souvenez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, son idée, son plan était de prendre le pouvoir en Ukraine en quelques jours et de le remplacer par un autre pouvoir à sa botte. Les gens étaient déjà nommés. Ça ne s'est pas passé comme prévu, on le sait. Et une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est parce que les troupes qui étaient déjà envoyées étaient des troupes d'occupation. Ce n'étaient même pas des troupes qui devaient se battre. Cela signifie bien qu'ils n'imaginaient pas une seconde que la guerre allait durer. Et donc il a fallu à ce moment-là qu'il réinvente totalement le logiciel de propagande et Poutine a décidé d'en faire l'équivalent de la grande guerre patriotique, celle de 45. Et donc il ne peut plus arrêter, il ne peut pas accepter, faire accepter à sa population qu'il mette un terme à la grande guerre patriotique sans avoir gagné. Et donc, il n'a aucun intérêt à arrêter aujourd'hui, sinon il risque tout simplement eh bien, d'être renversé, soit par la rue, plus probablement par un complot interne. Et s'il est renversé, eh bien, son clan, sa famille et lui-même risquent tout simplement de mourir. Mais donc, oui, forcément, puisque c'est lui qui détient toutes les clés des instruments de communication. Et tous ceux qui étaient un peu libres, il les a fermés. On sait bien qu'il a interdit l'utilisation de tous les réseaux qui n'étaient pas russes. Et donc forcément, il tient le discours. Simplement pour arriver à continuer à tenir la population, il faut qu'il tienne un discours de plus en plus dur, de plus en plus agressif, de plus en plus terrifiant. Souvenez-vous, il dit maintenant que l'Occident est sataniste. D'ailleurs, un des grands penseurs des affaires militaro-diplomatiques russes vient d'écrire un document tout à fait intéressant et tout à fait effrayant où il prépare l'opinion publique à une guerre sans fin en disant que c'est le monde d'aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter. Et qu'on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale, même si ça n'a pas la même forme que la Seconde Guerre mondiale ou la Première, mais on est dans une Troisième Guerre mondiale et donc ça ne va pas s'arrêter. Poutine a ce logiciel-là, il a gagné le pouvoir en gagnant la guerre en Tchétchénie, il a pu se relancer en 2014 en prenant la Crimée, il a été à ce moment-là très populaire, il a voulu refaire la même chose avec Kiev, il n'y est pas parvenu. Et encore une fois, c'est un homme qui s'est fait une image de marque de vainqueur, donc il ne peut pas reculer. Et donc, forte pression internationale, il a déjà des sanctions très fortes, la guerre dure depuis 4 ans, il y a peut-être 1 million de morts, mais c'est la grande guerre patriotique. C'est pour ça qu'il fait toujours référence à la grande guerre patriotique de 45, c'est la même. Donc Staline, celui qui l'impressionne le plus, Staline n'a pas hésité à faire tuer dans cette grande guerre-là 20 millions de personnes, à faire raser la moitié du pays. Il montre qu'il est prêt à faire de même puisqu'il s'agit d'une question de survie, non seulement pour lui, mais ça il ne le dit pas, mais de survie, dit-il, pour la civilisation russe. Comment reculer si la civilisation russe est en danger ?
D'Emmanuel Macron que le président ukrainien a été accueilli à Évian au sommet du G7 qui rassemble les 7 plus grandes puissances économiques mondiales. Volodymyr Zelensky a reçu le soutien de ses alliés, même Donald Trump l'aurait félicité pour les performances de son armée. Le président américain, qui n'aime pas vraiment se ranger du côté des perdants, a d'ailleurs appelé la Russie à négocier un accord de paix.
La Russie devrait accepter un accord. Elle a perdu un nombre effrayant de personnes, tout comme l'Ukraine. Au mois dernier, ils ont perdu 35 000 personnes. En moyenne, c'est 25 000 par mois. La plupart sont des soldats, des personnes jeunes et magnifiques. On n'avait plus déploré de telles pertes depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai mis fin à 8 guerres. Je pensais que celle-ci serait la plus facile à résoudre. Mais il existe une haine farouche entre ces deux leaders.
Loin de le climat apaisé que le président ukrainien a eu l'occasion de s'entretenir à deux reprises avec Donald Trump. Il compte notamment sur le président américain pour organiser une rencontre avec Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a en effet rappelé qu'une tentative lancée avant le G7 n'avait mené à rien.
Et la France de la possibilité d'une rencontre avec la Russie en marge du G7 en présence de toutes les nations démocratiques. Poutine n'en veut pas. Nous avons déjà discuté avec le président Trump de la possibilité d'organiser une telle rencontre aux États-Unis dans un format que Poutine aurait beaucoup plus de mal à refuser, au moins face au président Trump. Nous verrons ce qu'il en ressortira.
Volodymyr Zelensky ne repart pas d'Évian les mains vides. Ses alliés vont d'abord augmenter les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, notamment sur les hydrocarbures. Donald Trump a aussi promis de rétablir les sanctions sur le pétrole russe. Il les avait levées suite à la flambée des prix du baril lors du déclenchement de la guerre en Iran. Les dirigeants du G7 enverront aussi plus de moyens de défense anti-aérienne à l'Ukraine pour qu'elle puisse consolider les victoires de ces dernières semaines. Le Canada et le Royaume-Uni ont aussi annoncé toute une série de mesures, dont la lutte contre les navires fantômes utilisés par la Russie pour le transport d'énergie et de marchandises. Londres alimentera aussi le territoire ukrainien en uranium enrichi pour assurer la production nucléaire d'électricité pour les prochains hivers.
Vous diront, mais on ne voit pas en quoi tout à coup ici on voit de l'aide parvenir de la part des États-Unis alors que les sanctions soient rétablies sur le pétrole. D'abord, il faut attendre voir si ce sera effectivement le cas. Puis là encore, je pense qu'il faut en revenir aux faits. La France, par exemple, elle n'a jamais importé autant de gaz liquéfié russe qu'au mois de janvier de cette année. Donc, entre les déclarations et les faits, il y a un monde. Sur la question des armements, là aussi, entre les déclarations et les faits et les besoins de l'Ukraine pour essayer de neutraliser les missiles et les drones qui s'abattent sur les grandes villes, il y a un monde, là aussi. Et puis peut-être, juste pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, vous savez que les Ukrainiens, ils ont à peu près tous des proches en Russie. Sur le territoire de la Fédération russe. Et évidemment que, comme au début de la guerre à grande échelle, aujourd'hui encore, ils essaient de les appeler pour essayer de leur dire, en gros, dites à votre président de cesser, vous voyez, vous mourrez. Mais en fait, ils voient que ça sert à rien. Et ce qu'ils me disent, c'est que la propagande a fait son œuvre et que dans la tête d'infiniment de Russes, là maintenant, c'est soit de l'indifférence, donc ils ne lutteront pas contre cette guerre ou pour essayer de obtenir des négociations et un accord de paix. Au contraire, dans la tête d'énormément de Russes, Poutine a réussi à leur faire penser qu'ils étaient en train de jouer leur survie, que l'Occident effectivement les attaquait. Et puis, vous savez comment peut réagir une bête blessée. Elle peut aller très très loin pour assurer sa survie. C'est la comparaison que vont donner les Ukrainiens. Et puis, il rappelle aussi que les sanctions, il faut qu'elles soient infiniment plus puissantes parce que, ils le disent, l'histoire russe, elle est très très dure. Donc, les Russes font preuve d'une résistance incomparable à la résistance de nous autres. Par exemple, en Belgique, ils le disent littéralement, un Russe, vous le privez de chaude pendant 3 ans, ben c'est pas un problème pour lui. Il arrivera à résister en mangeant 2 patates par jour. Donc il faut faire attention aussi, je pense, à ne pas surestimer les déclarations occidentales, à ne pas anticiper les effets qu'elles n'auront pas. Il faut beaucoup plus que cela.
À cause des intérêts de la Russie, sans doute, la mise en cause des intérêts de certains clans, des intérêts financiers notamment, oui, ça peut évidemment entrer en ligne de compte. Des gens qui considèrent que le vieux, comme ils l'appellent, hein, le grand-père, n'a plus la main et est en train de leur faire perdre à la fois leur accès à l'Occident, leur fortune, l'éducation de leurs enfants, et qu'il est temps d'en finir avec Vladimir Poutine, qui n'a pas, il faut bien le savoir, organisé sa succession pour l'instant. Et on est dans ce cadre-là de gens qui se demandent que va-t-il se passer lorsque Vladimir Poutine sera incapable ou mort de gouverner, mais on n'en est pas là aujourd'hui, et il semble bien que le régime autour de lui tienne malgré les rumeurs qui ont circulé à un moment.